monde de la production numérique a énormément changé. De par sa spécialisation, son offre elle-même a explosé. Alors que les boîtes n'étaient que de prod, voilà 10 ans, elles travaillent de plus en plus en amont, maintenant, directement avec le client, ou en aval, en créant leurs propres produits. Point de conversation avec l'équipe de direction de 404, la boîte de services numériques, et de 405, la boîte de produits qui a développé un outil de planification stratégique à l'intention des partenaires d'entreprise, theprn.com. Bon petit cast!
Dans le fond, j'ai commencé dans le domaine, ça fait peut-être 10-11 ans, chez Marketel, en tant que programmeur Flash. Puis c'est là que j'ai rencontré Mathieu aussi en même temps. Il m'avait montré son site de dentiste qu'il avait fait là, quand il voulait faire son entrevue, fait que j'avais bien aimé ce qu'il avait fait. Non? Juste après, dans le fond, Jocelyn, Martin et moi, on a décidé de partir notre boîte. J'ai joint Mathieu et Jocelyn peut-être 2 semaines après qu'il ait commencé. J'étais pas sûr que je voulais faire le move, puis finalement, j'ai succombé. Puis ma seule condition, c'est que ça s'appelle pas Artefact Media.
Sérieux?
Ouais.
Nice move.
Je pense que ça a été un bon choix. Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est qu'on on avait même parti une petite compagnie pendant qu'on était aux études, Graphuge dans le temps. Puis on avait fait on disait 360 dans le temps. Là. On avait fait tout le site web, la campagne au complet, même une pub télé pour le festival de musique en vue de Coinsville.
Ah ouais.
On brassait de la grosse argent. Dans le temps, là, c'était 5 000 $. On avait mis, je pense, à peu près 8 500 heures de travail. mais on trippait dans le fond, là, c'était. Fait que on avait déjà un petit peu la flamme là, d'être à notre compte même quand on était aux études.
Toi, Jocelyn, ça faisait-tu partie de tes plans, partie de ta business éventuellement?
Ben oui, même quand j'étais plus jeune, j'avais fait un cours pour être ingénieur sonore. Puis j'avais même parti d'incorporation pour faire mon propre studio d'enregistrement. Puis tout, j'ai toujours eu un peu cette volonté-là, cette fibre-là. Puis ça a juste cliqué, dans le fond, chez Marketel avec Mathieu, quand on travaillait avec des fournisseurs, puis ça marchait pas, tout ça. On voyait que nous, techniquement, si on offrait un service, ça serait pas ça, tu sais. Puis que, justement, on avait ce désir-là de fonder une entreprise, de possiblement aller plus loin, puis de mieux épauler les clients quand qu'ils avaient besoin de services numériques. C'est parce que des fois, partir une entreprise tout seul, faire le move, c'est pas nécessairement évident. Mais quand tu as des partenaires avec qui tu peux fonder une entreprise, ben, le risque est réparti. Puis en même temps, ben, t'as plusieurs forces, faiblesses de chacune des personnes. Ça fait en sorte que ça fait un mélange qui est intéressant.
Là, je pense que 3, c'est bon. Puis on se faisait dire au début que c'était comme peut-être risqué. Hey, 3, ça va être spécial. Mais non, je pense qu'au fil des années, ça nous a aidé à prendre des décisions, des fois, d'avoir quelqu'un qui était capable de trancher.
On se complète bien aussi.
Ouais, je pense
qu'on est chanceux de ce côté-là, mais dans le fond, Martin et Justin, je connaissais quand même pas quand on a parti la business.
Effectivement,
c'était un peu d'idée. J'étais le seul qui connaissait les deux. Mais non, ça marche bien. Nos compétences et nos personnalités se complètent très, très bien.
En tout cas, on va toucher du bois, mais pour les 9 premières années, on s'est jamais trop vraiment assiné. On a eu des discussions, des trucs comme ça, mais c'est jamais vraiment arrivé qu'on a eu des conflits, là.
Martin, il est-tu en train de te toucher pour le vrai, lui, là?
Ouais, c'est ça. Je voulais pas le dire, mais c'est awkward.
Diriez-vous que une des raisons pour laquelle vous travaillez de plus en plus avec des clients directs, ça vient-tu justement un peu compenser? Dans le temps, les sites, pour que ce soit effrayant, c'est à cause du flaflan versus la réflexion à la fois technologique, la réflexion d'affaires. C'est un naturel pour les agences dans la mesure où la pub est d'abord et avant tout harangueuse, vendeuse, sexy, attrayante. C'est-tu comme parce que Flash disparaît, puis parce qu'on réalise à un moment donné, l'industrie évolue, qu'un site au-delà de faire vivre des expériences émotionnelles, ça fait d'autres choses. Ça vient-tu un peu de ce territoire-là, le fait que vous œuvriez maintenant plus directement avec des clients?
Bien, entre autres, c'est sûr qu'il y a encore des agences qui sont spécialisées dans ce que tu viens de nous décrire, tu sais, plus le tape-à-l'œil, puis le sensationnalisme, puis fait que oui, on va être capable d'apporter le côté peut-être un peu plus rationnel à un site web pour une agence comme ça. Puis en même temps, il y a des agences qui sont guéries pour être capables d'offrir le meilleur des deux mondes. Fait que c'est sûr qu'on pour des agences comme ça, on va moins être un atout parce qu'ils sont capables de l'offrir à l'interne. Fait que oui, je pense que oui. Mais je pense que c'est aussi que les clients sont un peu plus... en connaissent plus sur le domaine que dans le temps.
C'est ça, hein?
Les clients vont déjà savoir, quand ils vont venir nous contacter, ça sera pas rare que le client va avoir monté un arborescence qui fait du sens. Des fois, il va avoir des wireframes, ça, qu'il va l'avoir fait lui-même, il va avoir besoin quelque chose, mm-hmm. ou il va avoir fait affaire avec un spécialiste, un consultant, puis il va déjà avoir une bonne idée de ce qu'il veut, dans le fond. Puis même son knowledge technique va souvent être plus avancé qu'il y a 10 ans, quand on a commencé, où est-ce qu'on était un peu vu comme des geeks. Là, des fois, même c'est nos clients qui nous arrivent avec quelque chose que, ah, ben OK, on va aller voir, je connaissais pas ça, puis on explore la technologie avec lui, puis on est capable d'approfondir. Mais moi, je te dirais que les clients vont être beaucoup plus propriétaires de leurs produits, de leur site, de leur marque que ce qu'on remarquait quand on a commencé. Fait que ça change un petit peu la donne dans le type de mandat qu'on fait aussi.
Je pense pour ça aussi que les clients, souvent, ils ont commencé aussi à un peu contourner les agences, parce que les agences, de toute façon, comme le domaine devenait plus complexe puis demandait plus d'expertise, ben ils sous-traitaient de toute façon les mandats à des fournisseurs externes. Donc, tant qu'à ça, les clients qui sont devenus avec un petit peu plus de connaissances, un peu plus de knowledge à l'interne, ben ils se disent, ben pourquoi, tu sais, j'irais passer par une agence qui va me charger un frais. Dans le fond, je vais passer directement avec le fournisseur, puis un, ça va être plus facile au niveau de la gestion, puis de deux, je vais sauver des coûts, là.
Ouais. Ce qui a changé aussi, ce qui est particulier, c'est qu'au début, les agences, ça fait peut-être un lien avec ce que tu disais, Jocelyn, les agences, souvent, ils nous demandaient d'être en white label. Ils disaient, bon, ben là, on va te créer un courriel at notre nom de l'agence.com, puis là, il faudrait que tu passes comme un de nos employés. Puis on a tout le temps été un peu frileux à ça, mais on voit plus ça de nos jours. Même au contraire, ça arrive qu'on ait des agences qui vont carrément travailler avec nous en amont du projet, s'ils font appel à nos services, puis par la suite, ils nous mettent en contact directement avec le client pour toute la partie production.
Probablement que l'industrie a maturé justement à cause de ça, à savoir, ça devient tellement compliqué, demandant, ça pouvait paraître pour certaines agences comme « Ah, wow, une nouvelle source de revenus, on fait notre petite boîte à l'interne, etc. » Mais de répondre spécifiquement à plein d'enjeux, ne serait-ce que technologiques, ben, quand tu as deux programmeurs qui programment juste dans une sorte de code, rapidement, tu vas être pogné avec ce que t'as, fait que tu risques de tourner les coins ronds versus une boîte dédiée. Tu sais, je pensais un peu, puis ça fait longtemps que je fais le parallèle, là, mais tu sais, les agences, depuis tout le temps, font affaire avec des maisons de production vidéo, puis sont pas gênés de dire qu'ils travaillent avec telle boîte, sont pas gênés de parler, de dire qu'ils travaillent avec tel réalisateur ou tel ingénieur de son, justement parce que ces entreprises-là amènent une plus-value au service, puis c'est ce que le client ultime recherche. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu ce shift-là aussi maintenant, à savoir, ben je me cacherai pas pour dire que je fais affaire avec 404, par exemple, parce que ça va rassurer mon client que c'est peut-être déjà fait de faire fourrer par une agence ou un petit fournisseur poche. Puis là, ça va être comme, ben OK, au moins, je sais que j'ai la vraie équipe en place pour m'assurer d'aller plus loin dans le projet, et non pas moins loin et plus cher, probablement.
Oui, effectivement, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. Puis il va tout le temps avoir des agences qui vont être capables de faire de la production à la vidéo à l'interne, puis qui vont aussi faire du web ou qui vont offrir des services complets. Puis ça va dans tous les sens. Même des boîtes qui étaient numériques, maintenant, offriront pas un service de, par exemple, de SEO. Ils vont faire affaire avec un fournisseur. Tu sais, il va tout le temps, plus l'industrie se spécialise, mais plus il va y avoir des boîtes qui font exclusivement cette spécialité-là.
Fait que là, vous avez pas 10 ans encore. Là.
Non, ça va être l'année prochaine, au mois de mai.
Au mois de mai.
Okay. Ouais, ça va vite. Tu sais, on a un peu la fibre entrepreneuriale, là, je te dirais. On a tout le temps le rêve d'avoir notre produit à nous qu'on est capable de gérer puis de vendre à large.
Ouais.
Puis c'est un peu pour ça qu'on avait, ça fait quand même 5 ans peut-être, qu'on a créé 405. Parce que 404, c'est tout ce qui est service, 405, c'est tout ce qui est produit.
Le premier projet qu'on a décidé d'investir dedans, dans le fond, dans 405, c'était développer notre propre jeu. On a vraiment trippé à le faire. Ça a pris une bonne année, certains, à le développer. On était all-in, on n'a pas coupé coin rond. Mais on s'est rendu compte rapidement que c'était un marché qui était très, très, très difficile à rentrer dedans, surtout dans la période dans laquelle on a essayé de rentrer dedans. Mm. On était peut-être un petit peu tard un peu dans le processus. Je pense qu'on peut même pas calculer comment on a dépensé en production pour ce projet-là, puis on a fait, je pense, 64$ sur
ça. $64.
Donc, ça n'a pas été un grand succès. mais on a appris beaucoup, dans le fond, durant ce projet-là. Fait que c'est ça. Avec des jeux qui sont gratuits, qui ont coûté hyper cher à développer. Fait que quand un petit studio comme le nôtre, qui n'a aucun budget marketing, arrive pour compétitionner avec des méga studios qui ont des centaines de milliers de dollars à dépenser en marketing à chaque semaine.
C'est un coup de dé,
puis ça n'a pas marché.
Au moins, vous l'avez essayé.
On l'a essayé, puis ce que ça nous a fait réaliser, c'est que pour notre prochain projet, ce qu'on voulait faire, c'est d'essayer de trouver un problème auquel on pouvait, que nous, on avait en tant qu'entreprise. Exact, auquel on pouvait s'identifier en tant qu'entreprise. Mm-hmm. Puis on a eu une super belle opportunité. Dans le fond, on s'est fait approcher par une équipe qui font de la planification stratégique, qui s'appelle le PNR, puis ils voulaient monter une plateforme pour être capable de faire de la planification stratégique agile. Puis en tant qu'entreprise, puis d'entrepreneur, on voyait vraiment ce besoin-là, nous. On faisait une fois par année, on se rassemblait, on faisait un genre de planification stratégique. Mm-hmm. On avait une feuille de papier qu'on imprimait, on mettait dans notre tiroir, puis on l'ouvrait de temps en temps pour voir si on pensait qu'on allait être on track.
Ouais.
Ça, c'est une plateforme qui permet, dans le fond, de prendre un peu l'équipe exécutive par la main dans la création de cette planification stratégique-là, mais surtout dans l'exécution. Fait qu'au day-to-day, tu sais qu'est-ce que tu dois exécuter. À chaque mois, tu te rends compte pour faire ton petit sprint review, établir les priorités du mois prochain, puis on continue avec ça. On commence à avoir quelques clients, dans le fond.
On a une vingtaine de clients mensuels maintenant.
Puis ils apprécient la plateforme, puis on continue à la mettre à jour. C'est un beau projet, puis c'est motivant. Fait que, ouais, je pense que pour les prochains mois, années, ça va être le...
Ça va être de focus de 405.
Ouais.
Puis tu sais, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que de répondre justement à des besoins auxquels on pouvait s'identifier quand on créait un produit, puis comme on est habitué aussi de le faire dans certains cas pour des clients, de faire des plateformes pour aider l'efficacité, par exemple, des vendeurs, des trucs comme ça, ben rendu compte qu'on avait une plus-value dans ce type de développement-là, puis l'opportunité était juste parfaite avec nous là, pour mettre nos énergies sur ce produit-là.
On parle d'une plateforme. Elle doit avoir un nom, cette pauvre petite plateforme-là?
Oui, The PNR. Fait que si tu vas sur thepnr.com, thepnr.com, ça va être le site de la firme de consultation. Mais il y a un petit lien là, pour aller sur la plateforme. Je t'invite à l'essayer.
Oui, mais mes planifications stratégiques avec mes chats, j'ai vraiment besoin d'un outil pour essayer de rendre ça
plus. Non, mais c'est vrai que c'est plus adapté pour des équipes aussi. Ça va permettre de faire des strat plans live avec un système de vote sur les priorités, le poids de chacun des systèmes de backlog. Fait que ouais, je pense que tu tirerais profit de l'utiliser, mais c'est sûr que la plus-value est vraiment pour les équipes.
Ouais,
surtout, la particularité de la plateforme, c'est vraiment qu'elle est en temps réel. Donc, quand on est réunis dans une salle, tout le monde est connecté dans la plateforme, puis le vote se passe en temps réel. Toutes les étapes de la planification d'un sprint ou d'une année, ça passe en temps réel. Donc, on voit ce que les autres écrivent, on voit les votes les votes calculés directement, comme si on vote sur une carte, par exemple, pour dire mm-hmm. voici notre objectif, ben on voit ça en temps réel avec les autres, donc on peut facilement planifier la rencontre puis avoir les résultats finaux.
OK. Vous êtes rendu où dans 15 ans? Ben, pas dans 15 ans, mais 5 ans plus tard, à 15 ans.
dans 5 ans, c'est qu'on. Honnêtement, c'est juste qu'on va être. On a un petit peu tout le temps le syndrome de l'imposteur 404. Je te dirais, on avant de dire qu'on offre un service, on va s'assurer qu'on l'offre mieux que... Ben c'est peut-être coquille, là, mais qu'on l'offre au moins aussi bien que la compétition, voire mieux. Je te dirais que dans 5 ans, c'est qu'on va vraiment être une agence numérique, dans le fond. Puis on va être capable de servir nos clients pour tous leurs besoins numériques. Puis être reconnu pour ça, dans le fond, à Montréal. Donc, sortir un petit peu de l'ombre. On a vraiment une bonne réputation. Mais, ouais, je pense que c'est ça pour les prochaines 5.
Toronto, New York, Paris?
Ah, l'année passée, dans notre planification stratégique, on disait qu'on voulait se développer le marché deux nouvelles villes, dans le fond, au courant de l'année. Aller chercher, je pense, notre target, c'est 5 clients dans d'autres villes. On avait Toronto en tête. Mais on ça n'a pas été long qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une barrière plus imposante qu'on pensait. Mais c'est surtout qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore plein d'opportunités à Montréal. On a trouvé des nouvelles approches de vendre des nouveaux marchés, dans le fond, qu'on pensait pas, puis qui nous intéressent vraiment à Montréal, ou du moins au Québec. Fait que non, pour l'instant, oui, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça être à Toronto, New York, puis on rêve tout. Mais c'est pas un end goal en ce moment. Ça fait même pas partie de notre planète stratégique de cette année. En ce moment, c'est vraiment de développer notre offre. Puis quand on sera là, dans le fond.
Hey, j'ai trouvé votre nom si vous allez à Toronto.
C'est quoi?
401.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant PizzaForAll. Pour écouter d'autres PizzCasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das PizzCast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!